RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied, la vraie plus-value d'RMC Running est là, tout juste rentré du Maroc, bronzé comme jamais. Johan Durand est là, le maître Yodu. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît, ça va, impeccable. Salam alaikum alors, comme on dit.
Ah ouais, t'as bonne mine hein, mon vieux, incroyable.
T'as vu? Eh ouais, c'est ça, 3 jours à la piscine à rien faire, égal coup de soleil.
T'as pris des joues, j'ai l'impression. Parce que je t'avais vu affûter oui, comme contre, jamais au marathon de Paris.
Et ouais, mais ça ouais. C'est l'erreur que j'ai faite, le all inclusive, il faut jamais faire ça. Jamais le...
Ah ouais, c'est ça.
Oh là, quel enfer. Tu résistes toute la journée à ne pas prendre des gaufres à 4h, 5h, 6h, toute la journée tu peux manger.
Et voilà, et du coup voilà. C'est une torture psychologique du début à la fin de la journée.
Ah ouais.
Incroyable.
Et ouais, et quand tu rentres de vacances, tu t'en veux, tu vois, tu te dis oh là là, maintenant ça va être dur.
Ah oui, c'est vrai, je suis athlète de haut niveau, j'ai oublié.
Ah ouais, c'est ça vrai, le truc. Moi je dois courir là.
Bon, merci à tous pour le soutien, la fidélité sur les réseaux sociaux. Les communautés ne cessent de grandir sur Strava, sur Instagram, sur le TikTok du Maître Yodu. Vous nous suivez sur les plateformes. On est sur YouTube sur cet épisode. On est également sur Spotify, Deezer, Apple et sur les applis d'RMC. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir une notification dès que l'épisode est disponible. C'est le 3e épisode aujourd'hui de notre opération autour des 10 km de Paris. Un projet qui, je le rappelle, est co-organisé avec l'un des partenaires officiels de cette course, Hyundai, que l'on remercie pour cette collaboration. On va prendre des nouvelles de notre équipe, Johan, parce qu'on s'approche de ce fameux 10 km. Et ouais, on arrive à 2 semaines de l'échéance. Comment va la team ?
2 semaines, hein.
2 semaines, ça vient vite. Mathilde, Christine, Olivier, Thibaut, comment se passe leur préparation ? On va prendre des nouvelles. Si vous êtes concerné par une prépa 10 km, on a également une séance d'entraînement. À quoi sert le travail de seuil pendant une prépa 10 km? Ça, c'est très intéressant, Johan, parce que le seuil, c'est une vitesse spécifique qui fait beaucoup progresser. Hein, quelle que soit la distance qu'on prépare, c'est fondamental dans la progression du coureur.
Ouais, c'est vrai que sur une prépa 10K, c'est aussi un maillon essentiel. On a parlé de la VMA, on a parlé de l'endurance, on a parlé de pas mal de choses, mais le seuil, c'est très très important sur une prépa 10 km. Ouais.
Et puis à la fin de l'épisode, vous en avez l'habitude, Johan répondra à vos questions. Si jamais vous avez des questions, vous allez sur nos réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et vous les posez, comme ça on peut y répondre chaque mardi. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Je vois des sourires autour de moi, Johan, Mathilde. Bon, Mathilde a toujours le sourire, donc ça c'est assez facile.
Toujours.
Les garçons sont à mes côtés également, Thibaut et Olivier, salut à vous deux.
Bonjour.
Salut.
Vous aussi, il y a du sourire, ça va pour l'instant, tout se passe bien.
Parfait,
nickel.
Bon, magnifique. Et puis Christine est à distance. Christine, elle est en direct de Roland-Garros parce qu'elle bosse sur Roland-Garros. Salut Christine.
Salut la team.
Christine avec la casquette de compète. Vous avez vu ça?
Ah,
incroyable, magnifique.
Là...
ouais. C'est la casquette de chef.
Bon, voilà. Magnifique, tu vas nous raconter un peu ce que tu fais et comment tu gères cette préparation 10 km avec ton travail, parce que tu vas être très mobilisé sur cette période de Roland-Garros qui va durer 15 jours. Bah, des nouvelles de la team, Mathilde, comment ça va alors? La question habituelle, ta note sur 10, le plaisir, la difficulté, la fatigue, où tu en es dans ta prépa alors?
Alors le plaisir toujours, je reste à 8 sur 10. Au niveau de la fatigue, on va dire 7 pour cette semaine.
Quand même.
Ouais, 7, ouais. Ouais, un petit peu avec les contrariétés du travail, le perso et puis bon, l'intensité quand même des séances aussi. Mmh. Mais globalement, voilà, je suis toujours très satisfaite et très motivée à poursuivre du coup la fin de la prépa.
Est-ce que tu es confiante sur l'objectif? On rappelle moins de 50 minutes. Hein, c'est ce
alors,
que
j'ai fait un petit repérage cette semaine du parcours.
Ah,
en mode EF.
Ok, oublier okay, voilà. Les bouchons, tout ça
non, justement, non. À 6h du matin,
okay.
pour éviter ce genre de gros tracas.
Ok.
Et je dois dire que, effectivement, Johan.
La fin est dure.
Ouais, c'est dur.
Eh oui, oui.
Le départ, ça va aller vite. Et ensuite, il va falloir s'accrocher pour les derniers kilomètres, effectivement.
On vous l'a dit, hein, partez à fond. Ouais. Au pire, c'est la blessure. Au mieux, c'est le RP. Voilà. Donc, prenez tous les risques.
Tout pour le RP, hein, évidemment.
Façon, c'est le bon conseil. Si jamais c'est vous ça. Écoutez cet épisode sur une plateforme, allez tout de suite voir la vidéo YouTube parce qu'effectivement, on voit le repérage réalisé par Mathilde. Donc, avec une photo de mariés qui se sont levés dès l'aube. J'ai l'impression de pouvoir faire des photos devant la Tour Eiffel. Voilà, magnifique. Mais tu as pu repérer ce parcours. On l'a dit, c'est particulier, c'est le sens inverse de celui de l'année dernière. Ce qui sera dur, c'est la montée des champs sur le dernier kilomètre. Quoi.
Tout à fait. Mmh.
Et ça, ça te fait peur peut-être?
Oui, en sprint final, mais après, comme on a beaucoup discuté avec Florian aussi sur l'aspect mental, en point de vendredi, quand on a fait notre débrief, c'était très intéressant justement de ne pas focaliser uniquement sur une partie du tracé et de se mentaliser sur les autres points de la course pour rester toujours dans cette optique de gagne et du positif.
Ouais, c'est un bon conseil. Ouais, ouais. Florian Idiac, qui est votre coach sur toute cette opération, le coach My Running Club, l'appli de coaching de Johan Durand. Christine, comment s'est passée ta semaine? Tu sortais d'un marathon la semaine dernière, comment ça va cette semaine alors?
Mais nickel, en fait, le marathon était quand même le 11, donc ça va, il est bien passé.
Ouais.
J'ai eu des bonnes séances, dont la 5x1000 à allure 10K samedi avec le TRC. Ouais. Et j'ai eu un petit couac parce que j'avais lapé trop tôt, enfin voilà, mais dans les calculs et après le résultat des conseils du coach, tout est passé nickel. Donc je suis très contente parce que toutes les séances se sont très bien passées, donc une bonne note de toujours 8 sur 10 parce que c'est un vrai plaisir de faire ce genre de séance. Ça fait mal, mais ça fait du bien. On va dire ça fait mal, mais c'est pour le fun après, on va dire. Et niveau fatigue, cette semaine, on va dire que on était à 5 parce que je suis pas encore dans les semaines intensives que j'attaque là de Roland-Garros.
Ouais.
Et voilà, toujours du plaisir, toujours du fun, donc non, c'est cool.
Bah, raconte-nous ce que tu vas faire exactement sur cette quinzaine de Roland-Garros, quel est ton job et surtout quel impact ça aura sur ton entraînement, comment tu vas t'organiser alors?
Alors effectivement, je suis pâtissière sur Roland-Garros, donc chez Potel et Chabot, donc en fait on dresse beaucoup les desserts pour les grosses entreprises, des groupes, donc on est à environ, je sais pas, sur la journée, on doit dresser 1000 desserts au total, à peu près. Et on fait des journées où je commence à 7h. Et hier, par exemple, j'ai terminé à 19h, mais ça peut parfois déborder encore plus. Donc, je suis debout toute la journée. J'ai 3 quarts d'heure, 1 heure de pause, en règle générale, vers midi. Mais hier, c'était à 14h. Mmh. Et voilà. Et donc, mes entraînements, ça va être soit le matin avant de venir, parce que j'ai la chance d'avoir des douches sur place, ou le soir en rentrant pour éviter les bouchons du métro, parce que à 7h quand on arrive, c'est calme à Roland-Garros, mais à 19h, c'est la cohue.
Ouais. Le métro,
on a l'impression qu'on est dans les grandes surfaces. On a l'impression qu'on est dans en grande surface un jour de Noël, quoi.
Voilà. Je voulais décrire à Johan qui vient de la province. Le métro, c'est en fait c'est comme un train qui passe sous terre, voilà, et qui permet d'aller un peu partout dans Paris. Voilà, c'est ça le métro.
Okay. Ah non, je connais pas moi.
Que t'aies une idée. Non, mais question sérieuse, Yodu, c'est vrai que la période professionnelle va être chargée pour Christine. Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'être plus prudente sur les séances? À quel moment elle doit réaliser ses séances? Est-ce que c'est plutôt le matin avant le boulot ou après? Comment tu vois ça, toi?
La vraie difficulté, c'est de se dire, si elle le fait avant le boulot, ça veut dire avant 7h du matin, donc ça veut dire forcément un réveil vers 5h pour pouvoir être à Roland-Garros à 7h, ou alors le soir à la débauche, mais t'as passé la journée debout à piétiner, donc dans ce cas-là, c'est du footing, c'est peut-être du tempo à mettre en place, mais c'est vrai que les jours des séances, il faut vraiment faire en sorte que c'est le 10 km c'est dans 15 jours, donc faut pas ajouter de la fatigue à de la fatigue physique liée à ces journées qu'elle va passer. Donc là, c'est un peu comme avec Mathieu qui travaillait de nuit, c'est vraiment de l'adaptation, pas au jour le jour, mais il faut vraiment faire en fonction des contraintes horaires et se dire les jours où elle a une demi-journée un peu off ou des journées de repos, ça doit être le jour des séances parce que derrière elle va pouvoir récupérer, elle sera un peu moins stressée que le jour où s'il faut passer la séance avant 7h du mat et où tu bâcles la séance plutôt que faire une vraie séance de qualité. Ouais.
Mathieu, c'était l'infirmier de nuit qu'on avait accompagné sur le marathon de Paris. Vas-y, Christine.
Le 14, en col 14.
Ouais, j'ai des bottes de pressothérapie, donc là j'en ai fait hier soir une bonne heure et demie pendant que je regardais mon film. Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu conseilles d'en faire tous les jours ou surtout les jours où j'ai vraiment bossé et que j'ai été à fond? Ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire et tu aurais d'autres méthodes à appliquer pour déjà si j'avais pas de bottes de pressothérapie. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux mettre en place en plus ou en alternance?
Non, les bottes de presso, c'est très bien. Ça a un effet un peu massage drainant, massage vraiment lymphatique. Hein. Ça, c'est pas ça qui va vous faire partir des grosses contractures ou courbatures. Mais par contre, ça va vous drainer les jambes. Et effectivement, quelqu'un qui reste debout toute la journée ou qui marche beaucoup et qui a cette sensation de lourdeur, ça va travailler là-dessus. Donc, en faire tous les soirs. Alors, peut-être pas une heure et demie à chaque fois, mais 30 minutes à 45 minutes, c'est très bien. Et après, dans le même style, c'est toujours les mêmes trucs, hein, à savoir la douche écossaise alternée chaud-froid. En fait, l'idée, c'est de vasculariser au maximum la circulation sanguine et de permettre justement à cet afflux sanguin de se faire. Et donc, alterner chaud-froid sous la douche, c'est intéressant. Les bottes de presso, je vais arrêter de... Les bottes de presso...
Arrête de mettre des pouces, parce qu'on a l'impression que t'es au...
Ouais, faut que j'arrête de mettre des pouces.
Un feu d'artifice sur YouTube. Ouais.
Il faut que je désactive ce truc, parce que sur YouTube, ça donne des vidéos particulières. Bon, hein.
Pour décrire à ceux donc, qui nous écoutent, dès qu'il lève le pouce en l'air, en fait, il y a des feux d'artifice derrière lui. Incroyable. Ouais, alors que non, il est dans son salon.
C'est ça les magiciens, David Copperfield. Un vrai magicien. Ouais. Donc voilà, ouais, essayer de récupérer au maximum via ces choses-là. Ouais. Et après, tu peux faire un peu d'étirement à la maison, de mobilité, de souplesse, des choses comme ça, tranquillement devant la télé. C'est un bon retour au calme, ouais.
En parlant de douche écossaise, okay. Olivier donc est avec nous. C'est Olivier, donc toi ta semaine, comment elle s'est passée? Je me permets d'ailleurs pour tous ceux qui vont nous regarder aussi, j'ai mis ta photo Strava en une. Voilà, on va pouvoir l'afficher avec ce magnifique kilt.
T'as vu, je me suis changé.
C'est bien, hein, merci d'avoir fait l'effort pour nous, magnifique. Avec la veste qui va avec, magnifique. Ah oui, ça c'est la sûr, classe. Comment s'est passée ta semaine?
Exactement. Écossaise même. J'y suis en fin de semaine d'ailleurs.
En Écosse?
Ouais. Ok. Je vais faire les bains, comme a dit le boss.
Ah, magnifique.
Je vais faire ça. Je vais essayer. Tiens, je vais tenter.
Pas mal.
Je vais me trouver une bière pour me jeter dedans. Ouais. Donc ça, c'est le froid. Ouais. Et après, un truc chaud, je trouverais bien.
Pas sûr que ce soit idéal pour la prépa. Mais on t'en parlera avec ton coach. Oui, nous, ça ne regarde pas.
Exactement. Ouais.
Bon, ça a été la semaine, Olivier?
Ouais, très très bien.
Plaisir, fatigue, difficulté, ouais.
9.
9, le plaisir?
Ouais.
Ouais.
Fatigue, 6.
Ouais.
Ouais. Et difficulté, c'était pas simple ça. Il y a eu, on va dire, sur les 5 sorties, TRC samedi matin, c'était génial.
Ouais, vous avez fait un run communautaire, ouais, on va exactement. En parler effectivement avec nos partenaires du TRC aussi.
Voilà, donc on en reparlera. Ouais. Après, endurance fondamentale, on oublie, parce que c'est tranquille, voilà. Mmh. J'avais une sortie qui me rappelle un peu les sorties marathon.
Ouais.
Donc des blocs de 5 minutes à pratiquement vitesse marathon, donc ça c'était nickel.
Okay.
Par contre, la première et la dernière, où là c'était plutôt vitesse 10K, 5K.
Ah ouais, c'est celle-là qui sont dures.
Celle-ci, c'est. On termine, on est rouge. Hein.
Là, je suis sur ta séance réalisée dimanche, je pense. Ouais. 1000, 2000, 2000, c'est et ça. Après 4 fois 500.
Ouais, exactement.
Oh, ça, c'est dur.
Ouais, c'est dur. Hein. Ouais. Mais je trouve ça vachement ludique en même temps. Je trouve que ça passe plutôt bien. C'est marrant, c'est bizarre. Alors que la FC monte, hein, par contre, Yodu. Ça y est, enfin.
Ah, ça y est, tu plaignais, tu vois.
Non, ça y est,
enfin, tu sors de ta zone.
Oublie ce que j'ai pu dire.
Pour terminer à. Bon. Ouais. À 90% de ta...
C'est ça. Donc ça monte bien. Mais c'est
ça
super.
Bien, ouais.
Bon, ça c'est les séances qui te font progresser, qui vont t'amener jusqu'à ton objectif. On rappelle 45 minutes, hein. Tu vises 45 minutes, moins de 45 minutes au 10 km.
Oui, chef.
Christine vise moins de 40 minutes. On a parlé de Mathilde qui vise moins de 50 minutes. Et donc Thibaut, notre champion, qui lui vise moins de 35 minutes. Comment ça va Thibaut? Alors ça a été la semaine?
Ouais, ça a été super aussi. Pour les notes, moi niveau plaisir, toujours pareil, 8-9, parce que j'ai découvert des choses, le double C notamment.
Comment ça s'est passé? C'est vrai, c'était ta peur alors... de la semaine dernière alors.
C'était plutôt sympa, dur évidemment. En fait, c'était la même séance qu'Olivier en fin de journée, avec une première séance qui était de l'effort à 4-20. Donc un peu plus.
Ah, vraiment deux séances difficiles le même jour. Ah ouais, incroyable.
Voilà, okay. C'est ça. Et l'idée du coach Florian, c'était de simuler la fin de course, en fait.
D'accord.
De reproduire un peu l'état de fatigue qu'il pouvait y avoir sur le 7e, 8e kilomètre. Et donc, ça m'a vraiment plu niveau plaisir. Du coup, une très bonne note cette semaine, et avec le run communautaire aussi qui était hyper sympa. Et niveau difficulté, un peu comme Olivier, il y a eu des séances qui sont très bien passées. Et puis ce double seuil là qui était assez compliqué, donc on va dire 6-7.
Ouais.
Et niveau fatigue, moi en pleine forme, j'ai la chance de ne pas avoir de contraintes pro. Alors
pour le moment.
je mets des petites contraintes perso, on va dire, avec des soirées ou des petits voyages pendant mes vacances. mais du coup, ça ne dépasse pas les 6 sur 10. Je suis en pleine forme. Et comme a dit Charles, après la séance de samedi, pour les dernières semaines, c'est il n'y a plus qu'à voilà. Le moto maintenant.
Charles Perrault, responsable du TRC, qui nous accompagne sur cette épreuve. Et Johan, je te l'ai gardé l'info pour parce que je sais que ça va devenir ton chouchou, mais Thibaut était au concert de Jul quand même au Vélodrome. Et ça, je sais que ça te fait plaisir. Ça vous fait un sacré point commun, mon vieux. Hein.
Je marque des points auprès du coach. Ouais,
là, c'est sûr. Vas-y, fais-nous Jul. Yodi, voilà, t'es là.
Exactement. Voilà. Incroyable. On a fait ce signe pendant 3 heures. Au Vélodrome en plus.
Ah ouais, bah en plus au Vélodrome, incroyable.
3 heures de concert. Et
Johan, ouais. Dis-moi, le double seuil, ça c'est. Là, on est vraiment dans la phase critique de l'entraînement. Ça va vraiment lui permettre d'aller chercher ce bel objectif des moins de 35 minutes encore ?
Ouais, bah c'est l'idée, c'est de l'amener sur des zones qu'il n'a jamais connues, jamais fréquentées, aller justement s'entraîner 2 fois par jour, avec voilà le matin plutôt une endurance active à aller à 70-75% de sa VMA, et le soir une vraie séance spé 10 km. Donc effectivement, tu explores des zones que tu ne connais pas, et je pense que c'est comme ça que tu progresses en course à pied quand tu as un petit peu l'habitude de faire un petit peu la même chose, que tu as ta routine, que tu as tes habitudes. C'est bien de stimuler d'autres filières et de stimuler une nouvelle façon de s'entraîner. Alors après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut récupérer, parce que ce genre d'entraînement, c'est fait pour les athlètes professionnels. Ouais. C'est-à-dire qu'entre les deux, il faut faire la sieste, tu dois récupérer, parce que malgré tout, bah, ça te fait presque 25 km dans la journée. Donc, si ce n'est pas ton taf à temps plein, effectivement, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas quelque chose que je conseille pour les gens qui travailleraient 40 heures par semaine. Ou alors le faire le week-end sur leur temps de repos ou pendant leurs vacances. Mais effectivement, l'idée de l'entraînement, c'est quand même de récupérer des entraînements et de ne pas créer de surfatigue. Donc voilà.
Juste un mot sur ce run communautaire. Donc, c'était la deuxième fois que vous vous retrouviez tous ensemble pour participer à un entraînement. Il y avait énormément de monde d'ailleurs. C'était un beau rassemblement. Christine, est-ce que ça t'a plu, toi, cette séance collective, de renforcer comme ça l'esprit d'équipe ? Parce que c'est ça l'idée du projet mené par RMC Running en association avec Hyundai, c'est de vous rassembler, vous permettre de vous motiver, créer une émulation collective. Tu l'as ressenti sur ce deuxième run collectif, toi, Christine ?
Oui, c'était très sympa parce qu'en fait... certains ont fait, le groupe a été séparé, donc il y en a qui ont fait du footing et moi j'ai fait la séance spécifique qui était prévue par le TRC avec les 5x1000 à allure de nos 10K, parce que chacun avait des allures différentes, et c'est vrai que c'était vraiment très sympa parce que du coup ça se motivait et on avait un pacer dans chaque groupe.
Excusez-moi, hier
j'ai pas assez bougé, j'ai pas la lumière. Il y avait... Oui, je suis là. Et donc, en fait, il y avait des allures à 4, des allures plus rapides. D'ailleurs, Charles, qui était plutôt aux alentours des 3:30, et voire même encore moins. Et donc, c'était vraiment une super séance. Du coup, c'est ce qui m'a permis, en plus du fait de bien tenir mes allures, parce que j'avais un pacer à côté de moi qui n'est pas la pacer que j'aurai le jour J. Ah oui, ça aide. C'est pas celle que j'aurai le jour J, parce qu'elle n'était pas là. Je n'ai pas encore fait sa connaissance, mais... Mais non, c'était top, franchement top.
Bon, et oui, c'est tout l'intérêt aussi de vous réunir comme ça pour des runs collectifs. Christine, on va te remercier, on va te laisser profiter de ta pause et on va te dire à la semaine prochaine. Hein. Bon courage pour le boulot à Roland-Garros.
Oui.
Si tu croises Rafa, tu lui fais une bise de notre part.
Kiff.
Oui.
Voilà, évidemment.
Ouais, sans problème.
Voilà, n'hésite pas. Allez, merci Christine.
Non, non. Christine.
Bonne journée
cher,
à toi,
merci.
Bye bye.
Ciao, à plus.
Et c'est vrai que vous y êtes sensible vous aussi, c'est cette façon de créer un esprit d'équipe, c'est important aussi. Ça peut servir quand on est tout seul parce qu'on se dit, bah voilà, moi je suis lié à un tel et je vais aller courir avec lui et ça va m'aider aussi à progresser. Toi Mathilde, c'est quelque chose que tu faisais déjà auparavant, mais là ça fait une équipe de plus, donc ça t'aide aussi dans ton objectif.
Je le fais effectivement régulièrement pendant les semaines. Mais d'être avec mes coéquipiers, en fait, du coup, de la team, on partage nos ressentis, on se donne des petites choses aussi, des petits conseils entre nous. Et moi, j'ai eu la chance d'être avec Théo, donc mon pacer.
Ouais. Pacer le jour de la course.
Exactement. Ouais. J'ai pu discuter avec lui et il m'a donné 2-3 conseils d'avant-course. Voilà, c'est toujours un gros, gros bonus, ouais.
Olivier, ouais, pareil.
Pareil, ouais, c'était vraiment chouette. Déjà, L'organisation est vraiment super. Ouais. Donc, il y en a pour tout le monde. De l'endurance fondamentale tranquille, des groupes avec des pesseurs à chaque niveau, etc. Donc déjà, c'est, l'orga, elle est géniale. Et puis, ouais, c'est ça, c'est courir ensemble, c'est discuter. Moi, il y avait une femme qui courait avec sa fille avec une poussette. Donc, j'ai essayé pour la première fois. Je dis, est-ce que je peux l'essayer à un moment? Donc, j'ai essayé comme
et
ça.
Et alors, ton ressenti?
Oh, c'est pas simple quand même. C'est bordel, hein. Alors, moi, j'étais que sur du plat et en descente, c'est parfait. Mais je me dis qu'il y a le petit col de la le gros col de la montée du neuf, celui-là avec la poussette,
c'est sûr.
Ouah, ça doit être tendu, hein.
Dans la descente du départ aussi, imagine, contre, tu glisses, la poussette s'en va,
tu cours même pas première descente, t'es à 40. Ouais.
Non, mais c'est sûr que ça aussi c'est un sacré défi.
Mais donc tout ça pour dire que t'as tout un tas de personnes avec qui tu discutes.
Partage.
C'est un blabla run qui est génial, parce que moi je l'ai fait en endurance fondamentale tranquille, et c'était hyper bien, quoi. Super
mais
moment.
C'est la vraie plus-value des runs collectifs. Il y en a beaucoup partout, mais c'est l'intérêt de les faire nous aussi. C'est pour ça qu'on s'associe avec le TRC. Et toi, ça te parle, Thibaut, parce que ça concerne aussi ton niveau. Tu es dans un pourcentage de coureurs qui est très élevé. Il y a 1 à 2% de coureurs qui courent à tes vitesses. Mais grâce au TRC, tu vas trouver des personnes qui vont t'emmener. Tu auras toi aussi un pacer si tu le souhaites. Et là, tu peux créer un groupe d'entraînement qui peut t'emmener aussi sur tes allures.
Ouais, c'est ça. Le TRC, et comme tu disais, plein d'autres clubs. Typiquement, quand je vais faire de la piste là, sur les séances 400, 200, je vois à chaque fois qu'il y a ces clubs qui se forment. Et à Paris, c'est assez impressionnant la vibe qu'il y a autour de tous ces clubs et de ces runs collectifs. Moi, j'ai vraiment du mal à me mettre des séances difficiles tout seul. Par contre, quand je les fais accompagner avec des potes, même si on ne va pas aux mêmes allures, c'est assez stimulant. Et c'est aussi pour ça que je m'inscris à des compétitions avec des copains, c'est pour me préparer avec eux et qu'on partage le truc jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée.
C'est une bonne façon de se pousser et de donner le maximum, Johan, de partager des séances comme ça, même difficiles.
Complètement. L'athlétisme ou la course à pied, c'est un sport individuel, mais qui malgré tout se pratique en collectif, et c'est comme ça que tu progresses, parce que des fois, t'as pas envie, l'hiver, ça peut être compliqué. Même des fois, il suffit de pas grand-chose, il suffit d'avoir donné un rendez-vous à quelqu'un et de se dire, je suis un peu obligé d'y aller parce que je lui ai dit rendez-vous à 18h pour courir. Que le soir, quand tu rentres, tu n'aurais pas donné ce rendez-vous, tu serais rentré, tu te serais affalé dans ton canapé. Et là, tu es obligé d'y aller. Donc, ça aide. Et puis, voilà, le fait des fois, on ne voit pas l'heure passer parce qu'on ne fait que discuter, on blablate. Et c'est très bien ça. C'est très bien d'avoir des lièvres pour vous amener sur les allures. Ça, c'est encore plus agréable parce que ça, c'est en termes de performance, c'est vraiment un petit plus. Mais c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus de ces runs-là. Il y a de plus en plus de communautés comme ça qui se créent sur Paris ou ailleurs. Et c'est très intéressant, ouais.
Allez, reste concentré, Yodu, on passe à la séance tout de suite.
Oula, c'est pour moi.
Eh oui, c'est pour toi, parce que c'est toi la plus-value des RMC Running. C'est toi qui nous aides forcément à conseiller la team de la meilleure des façons. Parlons du seuil, Johan. C'est un terme qui est souvent utilisé dans nos podcasts RMC Running. On en parle pour toutes les préparations, que ce soit 10K, semi ou marathon. C'est un peu un socle commun, le seuil, qu'on travaille systématiquement lorsqu'on prépare un objectif. Rappelle-nous exactement ce que c'est et quelle est l'allure exacte du seuil pour chacun. Comment est-ce qu'on calcule son allure de seuil?
Alors, comment on calcule? Le plus simple, la meilleure méthode, c'est de faire un test en laboratoire.
Laboratoire.
Avec la fréquence cardiaque et le masque et tout ça. Mais là, c'est vraiment pour les athlètes qui veulent déterminer leur seuil au plus juste. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est ton seuil, il va se situer entre 85 et 90% de ta fréquence cardiaque max. Donc, quand tu connais ta fréquence cardiaque max, ça c'est pareil, il faut faire, faut faire des séances de fractionner, pousser pour pousser sa fréquence cardiaque max. Mais quand tu la connais, tu sais que ton seuil, il va se situer entre 85 et 90% de ta FC max. Et grosso modo, le seuil, c'est une allure que tu dois pouvoir tenir pendant 45 minutes à une heure. Donc, grosso modo, pour beaucoup, typiquement pour moi, c'est mon allure semi-marathon. Pour des coureurs débutants, on pourrait presque dire que c'est leur allure 10 km, tu vois, une allure 15 km. C'est vraiment une allure que tu peux maintenir pendant, je te dis, entre 45 et une heure suivant ton profil. Donc du coup, pour beaucoup, le seuil, ça pourrait, pour les débutants, c'est presque leur allure 10 km. Donc c'est un travail spécifique à leur allure de course du jour J. Donc c'est pour ça que ça va être très important, ouais.
Parce que forcément, on la travaille pour les coureurs très rapides comme Thibaut. Donc, on est plutôt sur une allure un poil plus rapide que le semi, par exemple, c'est ça?
Ouais, voilà, Thibaut, typiquement, ou ton profil à toi aussi, vous allez vous situer entre le 10 km et le semi-marathon. Donc, c'est une allure, voilà, un peu plus rapide que le semi-marathon. Mais c'est important parce que ça va te permettre d'améliorer ta vitesse de soutien. C'est-à-dire que ça va t'apprendre à maintenir justement cette vitesse qui est proche de celle qui est un peu entre deux eaux dans votre cas, mais qui va être intéressante à maintenir pour justement être capable de pouvoir courir 35 minutes à allure 10 km. Il faut être capable aussi des fois de courir 45 minutes à une allure en dessous du 10 km, mais qui n'est pas agréable. Tu vois, c'est le seuil, c'est l'allure, c'est le moment où tu bascules. En fait, c'est quand tes lactates vont dépasser un certain seuil. Et donc, c'est là où tu sens que tu n'es plus dans une zone tout à fait de confort. Et le but de ces séances-là, c'est de aussi retarder l'apparition de la fatigue, grosso modo.
C'est marrant, ça. C'est la meilleure définition, je trouve. C'est entre l'agréable et le désagréable. C'est cette allure-là,
c'est ça.
En fait.
C'est exactement ça. Ouais.
Parce que le 10K, c'est dur, forcément, pour tout le monde quand on pousse à fond. Mais est-ce que vous avez du mal, Mathilde et Olivier, d'ailleurs, à déterminer votre zone de seuil? Toi, Olivier, tu sors d'une prépa marathon, donc peut-être que tu sais à peu près fixer tes allures, quoi.
Alors oui, et moi, j'ai fait un test, un test d'effort sur tapis avec tout le masque, etc. Ouais, donc... Voilà, donc j'ai mon seuil, ma FC.
Déterminer tes seuils.
Ouais, exactement.
Alors c'est intéressant, ça donne quoi? Parce que ton allure 10 km, c'est quoi? C'est
4:30.
4:30 au kilomètre. Ouais. Ton allure marathon, c'est quoi?
Bah normalement 5:15, on va dire, à peu près.
Et donc ton allure du seuil, c'est quoi?
Mon allure du seuil, c'est... Oui, je suis à 168 en FC, donc ce qui est plutôt élevé pour moi, ça coïnciderait à... Je suis en train de réfléchir. Hein. Je suis à 156 à 5,05.
Ça doit être
donc
4,50.
4,50, ouais, à peu près 4,50.
Voilà. Ouais, Mathilde, t'as une idée de tout ça, toi?
Moi, je découvre.
Du coup, bah oui, forcément. Non, mais au début, c'est pas évident.
Du coup, j'ai de la chance d'être bien entourée, bien encadrée. Ouais. Donc, je m'aperçois effectivement que c'est pas un exercice facile, mais c'est. J'ai déjà en une semaine, j'ai le sentiment que le progrès, en fait, les petites choses se mettent en place, et c'est très intéressant de le sentir déjà, en fait. Ouais.
Et si vous êtes dans la situation de Mathilde, Johan, comment on pourrait le décrire? C'est une zone de résistance, c'est-à-dire qu'on est dans la difficulté, mais sans être à bloc non plus, quoi. C'est une bonne définition.
Sans être à bloc non plus.
Ouais.
Il faut pas que le cardio, on pousse le cardio comme sur les allures 10 km. L'idée du seuil, c'est de te permettre de courir plus vite, plus longtemps, grosso modo. Mmh. C'est-à-dire qu'on va te développer de l'endurance en te développant aussi de la vitesse. Donc, en fait, tu vas être capable, après ce travail-là, de courir plus vite et plus longtemps. Donc, effectivement, c'est une zone qui est, pour le mot que tu as dit, entre le désagréable et l'agréable, c'est vraiment ça, parce que tu sens que tu es bien, mais que 1,5 km/h, tu bascules au-delà du seuil, et dans ce cas-là, tu n'es plus du tout sur les bonnes allures. Donc, c'est quelque chose à maîtriser. Après, en termes de séance et de contenu, grosso modo, c'est des efforts avec des temps de soutien relativement longs, c'est-à-dire que le seuil, c'est 3 fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du seuil avec des efforts, avec un temps de soutien de 3-4 minutes. Il faut vraiment que ça soit sur des efforts relativement longs quand même. Et c'est comme ça que ça se travaille, avec des récupérations quand même relativement courtes.
Je sais pas vous, moi je trouve que c'est les séances...
Généralement une fois par semaine.
C'est les plus difficiles, moi je trouve, les séances de seuil. Parce que, alors après, ça laisse pas beaucoup de traces si on respecte bien les allures, mais c'est vrai que les blocs sont assez longs, Thibaut. Quand tu fais 3 fois 10 minutes ou 3 fois 12 minutes ou quoi, c'est mentalement, il faut la digérer celle-là quand même.
Ouais, c'est ça, c'est le type de séance que j'ai pas mal empilé moi en prépa marathon.
Ouais, bien sûr.
J'imagine que c'est assez classique pour un marathon. Mais c'est des séances qui permettent aussi de s'entraîner à l'hydratation, à l'alimentation, etc.
Ouais,
parce qu'on maintient un effort pendant 3 fois 20 ou autre. Donc c'est assez intéressant de combiner ça avec de la piste aussi, et pareil pour le 10, quoi.
Johan, à quoi ça sert dans une prépa 10K alors? Parce qu'on pourrait se dire, j'ai qu'à travailler du fractionné court dont on a parlé la semaine dernière, ou alors de l'allure spécifique 10 km. Pourquoi on travaille le seuil aussi alors?
Ouais, bah parce que ça te fait quand même ton fond de course, c'est-à-dire que t'es obligé de faire ce travail de seuil pour justement avoir cette capacité de fond de course. Si tu fais que de la VMA ou de la vitesse, au 7, 8, 9e, 10e kilomètre, quand tu vas dépasser la demi-heure de course, si tu n'as pas fait ce travail de seuil, tu vas vite te retrouver un peu coincé et en bout de course parce que tu ne vas plus être capable de maintenir l'allure. Donc effectivement, c'est ce travail de seuil qui va te permettre de pouvoir encaisser ce volume et être capable de, au 7e, de pouvoir maintenir la même allure progressivement et de la maintenir jusqu'au 10e kilomètre, jusqu'à l'arrivée. Ouais.
Comment tu le pratiques sur une prépa de 10K et quelles sont les précautions à prendre alors ?
Bah, je te le dis, ouais, une fois par semaine, pour moi, il y a la séance de VMA, il y a la séance de seuil et il y a la sortie longue sur une prépa de 10K. C'est vraiment les trois piliers qu'il faut. Après, bah, il y a le renforcement, il y a un travail de côte, tu peux rajouter plein de trucs, mais quand même cette séance de seuil, elle est importante. Elle se fait toutes les semaines ou tous les 10 jours, et comme on le disait tout à l'heure, si elle est bien faite, elle peut ne pas laisser de traces, c'est-à-dire qu'elle va te permettre de bien progresser, de faire ce fond de course, d'être capable de tenir ce temps de soutien qui est relativement fort sur le 10 km sans générer de la fatigue comme peut le générer une séance de piste de VMA de 300, de 400, de 500 mètres. Là, quand on pose les questions à nos athlètes, ils te disent que la séance qui leur fait le plus mal, c'est le spécifique 10 km et c'est la VMA 300-400. Donc en faire, c'est très bien parce que tu vas développer des capacités, ça va t'aider et en plus ça va pas créer une surfatigue comme peut le faire une séance de VMA vraiment intense qui elle va vraiment laisser de traces musculairement, va laisser des traces physiquement. Donc c'est un peu un tampon entre ces séances-là. Moi, j'aime bien le placer justement entre... alors, c'est un peu classique, mais chez moi, le mardi, c'est la VMA et le jeudi, c'est plutôt le travail de seuil et le dimanche, c'est le spécifique ou la sortie longue. Et je trouve que ça vient tamponner un peu entre ces deux et que c'est un peu le steak haché au milieu du burger, tu vois. C'est là et c'est bien placé entre les deux, tu vois, c'est parfait.
Ah ouais, j'adore toutes ces images. Ah ouais, bravo, coach. Aussi. Comme ça, on y voit plus clair. Bravo, c'est la meilleure définition.
Tu mets l'eau à la bouche.
Pourquoi se prendre la tête ?
Si tu mets les deux pains... Si... Voilà. J'ai faim.
Ah oui, ça y est, il a faim. Olivier a faim. Il avait soif tout à l'heure, maintenant il a faim. C'est ça le problème. Un mot sur vos allures 10 km, parce que là vous commencez à les appréhender, vous les avez travaillées sur des séances spécifiques. Est-ce qu'elles vous font peur encore ou est-ce que vous vous dites, bon, ça me semble jouable, accessible sur tout au long de 10 km comme ça, Mathilde ?
Je pense que de plus en plus, il y a de la confiance aussi qui s'instaure au fil des séances. Et du coup, je me sens capable.
Confiante.
Et confiante, oui, tout à fait.
10 km en 50 minutes, c'est 5 minutes au kilomètre, donc c'est 12 km heure, voilà, pour rappeler. Olivier, toi, l'allure 10 km ?
Eh ben, alors, je la connais très bien. Est-ce que je suis confiant ? Comment dire ? J'ai le mental d'une huître un soir de réveillon.
Ah oui, oulala.
C'est à peu près ça. Mais ça remonte, là.
Tu vas te faire absorber, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais ça remonte, ça remonte tout doucement, là. C'était très tendu, pas très tendu, mais je me disais, bon, ouais, c'est complètement débile, il y a 15 jours.
Ouais.
Et puis, suite à la semaine dernière, et puis au call qu'on a fait vendredi aussi...
Ça devient plus concret.
C'est ça, ça devient plus concret. Et puis, je vois qu'à 4h30... dimanche, malgré les excès, etc., de la semaine, tout ça, bref, je trouvais que ça passait bien, tu vois. Ouais. Donc, je suis en train, tout doucement, de me rassurer voilà, sur cette allure.
Parce que on en parle rarement, mais il y a aussi un intérêt psychologique de faire ce type de spédica, c'est qu'en fait, après, vous vous rassurez aussi mentalement et moralement. Au moins, vous arrivez gonflé à bloc le jour de la course.
Ouais.
Pareil pour toi, Thibaut,
Ouais, pareil. Et puis, Florian a su s'adapter à chacun d'entre nous, je pense. Ce qu'on avait fait, ce qu'on avait déjà prévu comme sortie ou autre. Pour mettre de la progressivité, pour mettre de l'allure 10 au moment où il fallait. Et ça va nous servir. Moi, la mini-appréhension, c'est les deux derniers qui sont en faux plat montant. Et en plus, sur un 10, on sait que c'est là que ça tire pour des profils comme nous qui venons pas des clubs d'athlètes ou de la piste.
Alors, c'est quoi, Thibaut, justement ? On va afficher sur notre vidéo YouTube le profil de ce 10 km de Paris qui est particulier. Avec cette descente à digérer dès le début. Et puis ensuite, cette espèce de faux plat montant constant, entre guillemets, des petits coups de cul, comme on dit vulgairement, jusqu'à la montée des Champs-Élysées. Parcours pas facile à appréhender, Johan, quand même. Là, on le voit avec le profil.
Non, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il valait mieux, comme l'année dernière, où c'est un parcours plutôt favorable jusqu'au 8e, une grosse bugne bien sèche au 9e qui dure 150 mètres et après ça redevient un petit peu plat, ou plutôt ce long faux plat usant qui va attendre les coureurs là du 8,5 au 10. Bah ça on verra bien le jour J, mais effectivement ça fait quand même un petit peu peur sur ce long faux plat, parce que tu peux vraiment perdre pas mal de temps si tu as un peu de jeter toutes tes forces en début de bataille et que tu arrives au 9e avec plus grand chose à mettre, et ça peut être délicat, ouais.
Sur marathon, la prépa était beaucoup plus longue, Johan. On avait 2 semaines d'affûtage. Là, il leur reste 2 semaines de préparation. Ça veut dire qu'ils vont faire une grosse semaine d'entraînement encore, celle qui arrive, oui, avant de se reposer un peu plus sur la dernière.
Ouais, ils vont faire encore une bonne semaine d'entraînement. C'est vrai qu'on a fait une prépa relativement courte, hein, de 4 à 5 semaines d'entraînement. Donc, le temps de se connaître, de connaître la qualité des athlètes, de savoir ce qu'ils aiment, de savoir jusqu'où on peut les pousser aussi. Donc, le 10 km présente cet avantage que ouais, une semaine d'affûtage ou 9 jours, allez, tu fais ta dernière séance le vendredi à J-9 ou autre, ça suffit après pour faire de la fraîcheur pour le 10K. Tu fais même des rappels d'allure en début de semaine pour encore débrider un petit peu la machine. C'est pas comme un marathon où les 15 derniers jours sont quand même primordiaux. Si tu fais pas cette période de taping, d'affûtage sur un marathon, c'est compliqué de bien faire le marathon, d'arriver frais. Là, sur un 10K, c'est pas toujours nécessaire, hein. J'ai fait des chronos dingues sur des 10K dans des grosses semaines d'entraînement. Donc ouais, là, c'est aussi propre à chacun, sa faculté de récupérer.
À quelle sauce vous allez être mangé cette semaine? Alors, vous avez votre programme un peu? Vous savez sur quoi vous partez ou pas encore? Ou Flo, il garde la surprise jusqu'au bout comme ça. Comment ça se passe? Thibaut, tu sais, toi?
Ouais, moi, c'est déjà pas mal précis, là. J'ai une première séance avec des 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes à l'heure 10 et 3 minutes, on va dire, assez proche du seuil.
Ok.
Et donc ça, 4 répétitions.
Avec récup pincé?
Avec des mini-récup de 45 secondes, ouais.
Ah oui, ça c'est dur. Okay.
Et je trouve ça intéressant parce qu'on va se mettre du coup sur l'allure 10, réduire un peu, mais pas suffisamment pour que le corps déchauffe, ouais, on va dire, donc maintenir le cardio assez haut.
Oui.
Et arriver à réaccélérer.
Surtout que t'as une minute d'effort en plus.
Voilà, c'est ça. Et arriver à réaccélérer, ce qui sera un peu le cas dans les virages, les relances, etc. Ça, j'ai moins l'habitude aussi, donc c'est pas mal de progresser là-dessus. Et après, j'ai une autre séance qui sont c'est des 200 mètres, avec ensuite de l'allure 10 pour terminer, après les 200 mètres.
Ok.
Pareil pour simuler une fatigue cardiaque assez forte.
Et t'as une dernière spé costaud ce week-end ou pas, tu sais ça?
J'ai des runs progressifs ensuite le week-end.
Ok, voilà. D'accord.
J'ai 5 séances en tout avec les EF.
Vous savez, vous, Olivier, Mathilde?
Moi, je n'ai pas tout regardé. J'ai juste vu que demain, j'avais à peu près la même séance que toi.
Je crois qu'on a à peu près toutes les mêmes.
Ouais, ok.
Séances.
Les 2 minutes, 3 minutes, là?
Ouais, ouais, c'est ça, exactement. 2 minutes, 3 minutes. Ça, j'ai regardé. Par contre, la suite, j'ai pas encore regardé. J'y vais par étapes.
T'as raison.
Tu te fais pas peur. Tu regardes. Ça. Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui?
Non, mais je me dis que ça peut pas être pire que la semaine dernière, de toute manière. C'est ça.
Ouais, bon. Mathilde, c'est la même chose.
Ouais, c'est la même
4 minutes.
Ok.
Ouais, c'est ça.
Pas facile cette séance 2 minutes, 3 minutes, Yodu, hein?
Non, parce que alors la 2 minutes, elle est courue à l'allure 10 et la 3 minutes un peu moins vite que l'allure 10, mais la récup est vraiment courte, entre 45 minutes et 1 minute. Et donc, tu as l'impression que sur le 3 minutes, vu que tu vas un petit peu moins vite, c'est mieux. Mais le problème, c'est que tu as un temps d'effort de 1 minute de plus que par rapport à ton effort sur les 2 minutes. Donc effectivement, et puis ça revient vite, ça réenchaîne vite. Donc non, c'est un effort un peu traître, surtout si le 3 minutes, tu le cours sur le rythme du 2. Tu vois, tu as tendance un petit peu à repartir un peu sur la même allure.
Mmh.
Et là, ça peut vite être la séance piégeuse qui peut te faire basculer, ouais.
Est-ce que vous avez une question à poser au maître Yodu ou est-ce qu'on passe aux questions de la communauté? Mathilde, Olivier?
Moi, en fait, c'est au niveau de la récup. Enfin, quand je m'aperçois que je fais mes séances en fin de journée, le soir, j'ai extrêmement du mal en fait à récupérer. On en a parlé avec Florian, du coup. Ouais. Est-ce qu'il fallait se faire des petites séances de méditation? Enfin, quels sont les exercices qui puissent calmer justement cette fréquence?
Tu veux dire que tu as le cœur qui monte et qu'il y a du mal à redescendre ensuite?
Ouais, du coup, j'ai du mal à...
Ouais, du coup, t'as du mal à t'endormir.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Mmh. T'es un peu encore excité de la séance et de l'entraînement et tout ça. Ouais, la méditation et le yoga, effectivement, se poser et faire un peu des assouplissements tranquilles à la maison, ça peut t'aider à t'endormir. Après, tu peux pas du tout t'entraîner le matin.
Cette semaine, je pense que oui. Cette semaine, je suis en vacances, donc oui. Je vais
De privilégier les.
Mais c'est vrai que c'est plus facile parce que
le matin, du coup.
faire du fractionné à 19 ou 20 heures, c'est tu rentres compliqué. Chez toi, c'est vrai que t'es encore un peu sur les nerfs et c'est beaucoup plus difficile de t'endormir, ça c'est sûr.
Complètement, ouais. Non, ça joue, ouais. Ça joue sur le sommeil, ouais.
Bon, bah tant mieux. Et puis après, ça sera semaine d'affûtage, donc tu seras tranquille la semaine prochaine, quoi. Olivier, Thibault, une question particulière ?
Non, moi c'est parfait.
Ok. Le décalage horaire, les costes, tout ça, non ?
Ouais, une heure. une heure, ça va. Pas d'alcool.
Pas d'alcool, excellent.
Du haggis, tout ce qu'il faut, quoi.
Eh bah, excellent, magnifique. Oh. Thibaut, toi aussi, tout va bien ?
Tout va bien. On a répondu aux questions que j'avais, notamment comment fixer l'allure, parce que c'est. Ouais. Il y a différentes écoles.
Tu veux la playlist de Joule, de Yodu pour les séances de EF ou de fractionné ou pas ? Non ?
Voilà, j'ai la setlist du concert qui a duré 2h30. Ça fait des bonnes sorties.
Problème, il y a encore des acouphènes.
Pour le trail.
Bah oui, comme il sort 45 chansons par an, bah forcément, il faut toutes les diffuser. C'est toujours le problème. Bon, Johan, il y a énormément de questions qui sont tombées sur les réseaux sociaux d'RMC Running. La première, c'est Benjamin qui te la pose. Écoute.
Bonjour à toute l'équipe de RMC Running. Je m'appelle Benjamin. Je vis à Malmö en Suède et le 15 juin prochain, je vais courir la Brulopet. Un semi-marathon entre le Danemark et la Suède. Le parcours comprend un tunnel de 4 km, donc il faudra oublier mon GPS sur cette partie. Une île artificielle de 4 km aussi, et puis le pont de 8 km. Le sommet du pont est à 57 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc une montée d'environ 3 à 4 km avec un peu moins de 2% de pente. Bon, c'est pas énorme, mais assez long, et j'aurais voulu les conseils de Maître Yodu sur comment aborder cette moitié du pont. Faut-il mieux réduire l'allure de 5 à 10 secondes, se fier à ses sensations ? Bref, voilà. Merci beaucoup pour les conseils.
Sympa comme épreuve. Ça doit être atypique.
Et je pense que c'est exactement le mot. Ça doit être atypique parce que courir 4 km dans un tunnel, ça doit paraître long.
Ah ouais, ça c'est
simple.
Comment t'affrontes la difficulté alors ?
Il a très bien la première difficulté, il n'a pas trop parlé, mais 4 km sans montre GPS, sans savoir à quelle allure on court, pas facile, pas simple. Donc là, il va falloir vraiment faire attention. En sortant du tunnel, le GPS il va être perdu. Il va falloir bien 1 km avant qu'il se recalibre, qu'il revoie à peu près où est-ce qu'il est et que les données envoyées sont relativement fiables. Donc il va falloir vraiment qu'il regarde par rapport aux bornes métriques en espérant qu'elles y soient. Et après, concernant le pont, la question c'est de savoir à quel kilométrage il est de l'arrivée, parce que si en haut du pont derrière tu bascules et c'est l'arrivée, j'ai envie de lui dire monte à fond et derrière c'est la descente et c'est terminé. J'ai pas l'info, donc je sais pas à quel kilométrage se situe le pont. Si jamais derrière il y a encore, je dirais 2, 3, 4 bornes avant l'arrivée, effectivement, c'est comme pour toutes les petites bosses, 2%, je pense que c'est exactement ce qu'il doit y avoir sur les Champs-Élysées. C'est un faux plat usant. Alors en plus, Norvège, Suède, sur ces ponts-là, je pense qu'il doit y avoir un sacré vent. Si tu chopes vent de face, parce que je vois très bien comment ils sont ces ponts-là, si tu chopes un peu de vent, c'est encore plus compliqué. Donc effectivement, peut-être baisser l'allure de 5 secondes comme il a dit, si ça, jamais il est dans le dur, 10 secondes pourquoi pas, et puis essayer de rattraper tout ça dans la descente en se laissant descendre sur la suite, et puis voir ce qui lui reste en kilométrage sur la fin de course, quoi. Mais effectivement, il y a le pont, il y a le dénivelé, mais je pense qu'il y a le vent aussi qui peut être piégeux. Ouais.
Et tu le conseilles rarement, mais pour ceux qui se connaissent parfaitement, s'il y a ce type d'épreuve, il y a aussi la donnée de la fréquence cardiaque qui peut être importante, Johan, pour être sûr de ne pas être en sur-régime.
Ouais,
sur une montée régulière comme ça, avec un faible pourcentage, toujours surveiller ces zones et être sûr de ne pas être en sur-régime.
À pas monter, ouais. À prendre 3, 4, 5 pulses max, mais pas. Enfin, même 5, c'est déjà beaucoup. À faire attention à vraiment rester dans sa zone de travail et d'effort, surtout si derrière, comme je le disais, il reste 4-5 km à finir. Effectivement, ce n'est pas le moment de se mettre dans le rouge et de vraiment regarder sa FC. C'est un bon indicateur. Ouais.
Alors, Hugo t'a posé une question, il l'a envoyée par écrit, donc je vais te la lire, Yodu. Comment éviter les fourmillements réguliers ? C'est vrai que ça nous est peut-être déjà tous arrivé, lorsque on court, ça peut arriver dans une jambe, sur un pied, des fourmis dans le pied. Ouais. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ? Quelle est la cause et comment on l'évite alors ?
Moi, ça m'est arrivé une fois, je pense, une ou deux fois maximum dans ma carrière, et c'était juste un problème de serrage.
Là, c'est trop serré.
Trop serré. Ouais. Et ouais, chaussures trop serrées, et là, du coup, bah, t'as une mauvaise circulation sanguine, t'as le nerf qui est un peu pincé, et ça peut être même un peu galère parce que je m'étais pincé le nerf qu'il y a sur le coup de pied, et effectivement, après, c'était douloureux pendant quelques jours. Donc, voir si ça vient pas de sa chaussure, si c'est pas le cas et si ça lui arrive assez régulièrement, il y a peut-être aussi, alors si c'est vraiment sous la voûte plantaire, ça peut aussi venir de la chaussette, tu sais, ce frottement entre la chaussure et la chaussette, la semelle un petit peu abrasive. T'as l'impression que t'as le pied un peu en surchauffe. Et après, si c'est récurrent et si c'est plutôt quelque chose de plus dans le pied en général, bah c'est plus une pathologie où là il va devoir consulter, parce que ça peut être le syndrome des loges, ça peut être une mauvaise circulation sanguine, ça peut être une compression nerveuse d'un nerf. Il y a plein de paramètres qui peuvent amener ces fourmillements. Et moi, là-dessus, j'ai pas trop de conseils à lui donner. Je pense que l'hydratation, elle est importante pour justement fluidifier tout ça et faire en sorte que la circulation sanguine se fasse bien. Ça, c'est sûr que c'est la base. Mais s'il fait attention à tout ça et que malgré tout, il a des fourmillements dans le pied, voilà, je pense que syndrome des loges ou un truc du genre, c'est pas à exclure, ouais.
Question bête, mais est-ce qu'il ne peut pas utiliser des manchons de compression qui favorisent la circulation du sang? Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'il teste plusieurs paires de chaussures, voir si ça lui arrive avec toutes les paires?
Ouais, bah c'est ça, ouais. Il faut tester plusieurs paires de chaussures, voir si ça... Parce que, comme je disais, des fois, il y a des semelles qui sont plus ou moins abrasives et on a l'impression qu'elles nous brûlent un peu sous le pied et ça peut créer cette sensation de fourmillement. Après, si c'est le mollet, effectivement, les bas de contention sur le mollet, eux vont justement drainer, faciliter ce retour veineux et vont avoir cet avantage-là par rapport au fait de ne pas emporter. Mais il faut vraiment que ça soit... un fourmillement dans le mollet et pas seulement sous la voûte plantaire, quoi. Ça, ouais. c'est je sais pas exactement où est la pathologie, ouais.
Tiens, puis une dernière question matos pour terminer, c'est Mickaël qui te la pose, Yodu. Est-ce que le drop d'une chaussure impacte notre foulée? Le drop, on le rappelle, hein, c'est l'écart de ouais, hauteur de, voilà, entre le haut, enfin entre l'arrière et l'avant de la chaussure, voilà.
Et l'avant du pied, ouais. Bah, les drops élevés, généralement, ils sont entre 8 et 12. On a même des chaussures à 12 aujourd'hui.
C'est des millimètres.
Drop classique, voilà. Ouais, entre 0 et 6 millimètres. Effectivement, l'avantage des drops, c'est de te surélever un petit peu sur l'arrière et pour décharger un petit peu tes mollets. Là, c'est propre à chacun. Et effectivement, le fait d'avoir des drops élevés va faire que tu vas certainement attaquer un petit peu plus talon. Sur des drops élevés, tu vas avoir tendance à arriver un petit peu plus sur le talon, alors que sur des drops bas, on va plutôt arriver médio-pied. Donc effectivement, du coup, ça va un petit peu changer ta foulée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans l'achat d'une paire de chaussures, ça doit être la base de l'achat de la paire de chaussures, au-delà du confort, de comment on sent dedans et tout ça. Le drop, c'est quand même super important parce qu'il ne faut pas alterner, passer d'un drop 6 à un drop 10, à un drop 0, à un drop 6. Ça, c'est vraiment interdit. Voilà, et après, bah, effectivement, sur la foulée, il va y avoir une sensation différente avec une attaque plutôt médio-pied et une phase de poussée plus importante sur des drops bas. C'est toute une histoire de technique. Donc, ouais, il va y avoir un impact, un vrai impact sur ta foulée, ouais.
Merci Yodu, t'as été excellent, comme d'habitude. Un grand merci à toute la team qui était présente. On pense à Christine qui est donc dans les coursives de Roland-Garros. Allez goûter ses pâtisseries si jamais vous êtes de passage et vous allez assister à des matchs.
Donc elle a intérêt à m'en garder.
Voilà, exactement. Le roi de la pâtisserie est là. Maître Yodu, le roi de la chocolatine. Vous savez pas ce que c'est, nous non plus, rassurez-vous.
Il n'en trouvera pas là-bas.
Voilà, c'est sûr. Merci Mathilde, merci Olivier, merci Thibault. On vous souhaite une belle séance d'entraînement, une belle semaine surtout avec ces 2 et 3 minutes là qui va être une séance assez compliquée. On se retrouve lundi prochain, diffusion mardi de l'épisode, et on sera à quelques jours de ce grand objectif, le 10K, l'Adidas 10K Paris, qui est prévu donc le 8 juin. Donc restez bien en forme. Si vous aussi vous le courez, n'hésitez pas à suivre les conseils du maître Yodu, et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.